Pourquoi j'ai réfléchi à ce thème? C'est vrai qu'on est dans le deuxième, l'avant-dernier dimanche de l'Avent. Pas de l'Avent Noël, de l'Avent Pâques. Ce qui veut dire que nous sommes dans le temps de carême de nos frères catholiques. Et c'est vrai que nous, on le pratique pas forcément trop dans nos milieux, mais ça fait plusieurs années que je me suis intéressé à cette notion du carême. Et puis, il y a quand même des choses que je trouve très intéressantes dedans. Et une des choses que j'aime, c'est cette notion de dépouillement, justement, mais cette notion de dépouillement volontaire. Dans le carême, il y a vraiment cette idée d'aller au désert comme Jésus est allé au désert avant son ministère. Et puis, je pense que vous avez tous connu dans vos vies des moments de désert, mais il y a quand même une vraie différence entre le désert qui est subi et le désert où on a choisi nous-mêmes de se mettre dans cette démarche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la notion de dépouillement. Et pour ça, je vous propose que nous étudions un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et à partir du verset 16. Alors je lis. « Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Lesquels ? » demanda-t-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu respecteras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai mis en pratique tous ces commandements. Que me manque-t-il encore ?»« Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Ainsi, tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il sera difficile à une personne riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les êtres humains, c'est impossible, mais tout est possible pour Dieu. » Pierre prit la parole. « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour nous ?» Et Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous qui m'avez suivi, vous siégerez également sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Alors c'est un texte très riche, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur deux, trois passages en particulier. Dans un premier temps, je vous propose de s'arrêter sur cette rencontre entre Jésus et ce jeune homme riche. C'est très intéressant parce qu'en finalement très peu de versets, il se passe beaucoup de choses et Jésus fait vraiment un parcours incroyable avec ce jeune homme. La première chose qui me frappe, c'est que le jeune homme pose une question. Et la première réponse de Jésus, c'est « Mais en fait, c'est pas la bonne question. Merci pour ta question, mais en fait, pourquoi tu me demandes ce qu'il faut faire pour être bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu lui-même. » Alors déjà, ça commence mal. Et Jésus enchaîne en disant « La vraie question que tu devrais me poser, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie ?» Et Jésus enchaîne et donne la réponse à cette question. « Eh bien, tu dois suivre les commandements. » Et ensuite, le jeune homme, lui, demande « Oui, mais lesquels ?» Alors pour nous, ça peut peut-être paraître bizarre parce qu'on se dit « Les 10 commandements, nous, on connaît. » Mais c'est vrai qu'à l'époque, faut pas oublier que des règles et des commandements, pour les Juifs, il y en avait énormément. Donc la question était légitime « Oui, mais lesquels ?» Et Jésus, très patient et pédagogue, lui énumère tous les commandements qu'il faut suivre. Alors, je sais pas vous, mais moi, je pense que la conversation, elle aurait pu s'arrêter là. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, je me dis, bah, je peux rentrer chez moi et j'ai de quoi faire, j'ai du boulot. Parce que si déjà je dois suivre tous ces commandements pour rentrer dans le royaume des cieux, voilà, j'ai ma réponse. Mais c'est pas le cas de notre jeune homme. Lui, il se démonte pas, il dit, ah, bah, ça tombe bien parce que moi, tout ça, je le fais déjà. Tout ça, c'est bon. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est intéressant parce que là, Jésus, il connaît tout de la vie de cet homme. Donc, il aurait pu lui dire, oui, enfin, t'es gentil, tu te rappelles la fois où t'as fait ça, ou la fois où t'as fait ça, c'était quand même pas terrible. Mais non. Jésus ne remet pas en cause cette déclaration du jeune homme, mais il l'emmène encore un peu plus loin et lui demande, il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres, et ainsi tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ce qui est intéressant, c'est que ce passage, moi, je le connais un peu de tête, et je me suis rendu compte que souvent, on reste très fixé sur cet appel qui est quand même assez choquant de dire, bah, vends tout, et puis donne l'argent aux pauvres. Mais en fait, le vrai appel dans ce passage de Jésus, c'est pas de vendre tous ses biens. Le vrai appel, c'est les derniers mots, c'est viens et suis-moi. Et en fait, quand on lit ce verset, en fait, ça change tout de se dire qu'en fait, le vrai appel, c'est viens et suis-moi. Et finalement, ça évite plein d'embûches de se dire, mais est-ce que Jésus est en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être riche? Est-ce qu'en fait, l'argent, c'est mauvais? Est-ce qu'on devrait tous tout vendre et devenir pauvre? Mais en fait, cette question, elle est biaisée parce que ce que Jésus demande, c'est viens et suis-moi. Et ensuite, pour cet homme, dans son contexte, Jésus sent qu'il y a un obstacle potentiel pour cet homme à le suivre et c'est ses richesses. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et c'est dans cet objectif-là que Jésus demande à cet homme de tout vendre. Et c'est un peu la première chose sur laquelle je voudrais insister et vous laisser ce matin, c'est que lorsque Jésus nous demande parfois de faire des sacrifices ou de laisser tomber des choses, de se dépouiller, c'est jamais par principe. C'est pas juste parce que Dieu aime qu'on soit dépouillé. C'est pas juste pour dire « Ah bah ouais, en fait, ce serait bien que vous lâchiez tout. » Non, c'est parce qu'il veut nous emmener quelque part. La vie avec Jésus, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui mène quelque part. C'est pas juste un programme de développement personnel en quelques étapes. C'est un chemin vers quoi? Bah, vers la vie éternelle. Et du coup, tout ce que Jésus demande, et lorsqu'il demande de lâcher des choses, c'est avec cet objectif en tête, se dépouiller pour aller vers quelque chose de mieux. Ce que j'aimerais aussi retenir, et on y reviendra à la fin, c'est quand même vraiment aussi le courage de ce jeune homme de questionner et de poser les vraies questions. Et je me dis, je ne sais pas si j'aurais le même courage d'oser demander à Dieu comme ça, mais au fait, Seigneur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais enlever pour avancer avec toi? Et puis, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'elle termine mal. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte, mais en fait, de toutes les rencontres de Jésus dans les évangiles, c'est une des seules histoires qui se termine mal. Il y a des gens, ils ont rencontré Jésus, ils ont été guéris, ils ont été sauvés, il y en a qui sont partis en chantant, il y en a qui sont partis en courant, en dansant. Mais ce jeune homme-là, il a rencontré Jésus, il lui a parlé, ils ont eu un échange, et il est reparti tout triste. Et en y réfléchissant, moi je me suis dit, mais en fait, pourquoi du coup garder cette histoire-là? Pourquoi nous transmettre cette rencontre-là? Et en fait, moi je suis content que cette histoire soit dedans. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai plus de facilité à m'identifier avec ce jeune homme-là. Parce que moi, je ne suis pas fan de se dépouiller. Les deuils, devoir lâcher des choses, devoir renoncer, c'est pas quelque chose qui est forcément facile et qui est naturel. Et du coup, ce que je vois aussi là-dedans et dans la présence de cette histoire, c'est aussi vraiment la grâce de Dieu qui reconnaît aussi que c'est pas toujours facile et que quand il nous demande des choses, eh ben c'est pas évident pour nous. Et en fait, on a le droit aussi des fois de pas y arriver Et c'est normal que finalement cet homme avait aussi de la tristesse après ça, parce que peut-être il était à un moment de sa vie où il n'était pas prêt à faire ce sacrifice. Alors ensuite, Jésus utilise cette image qu'on connaît tous, on a tous souvent entendue. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors je me suis quand même un peu questionné sur cette expression, parce que c'est quand même un peu particulier. Et en faisant mes recherches, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens s'accordent à dire qu'il faudrait pas le prendre au pied de la lettre. Parce que clairement, une aiguille, rentrer un chameau dedans, c'est vraiment une impossibilité. Alors, je vais vous livrer les deux interprétations principales que j'ai trouvées, et je vais vous dire ma préférée, et après c'est libre à vous. La première, c'est au niveau du terme qui est utilisé pour le chameau. Et en fait, alors c'est des érudits hein, en linguistique qui nous disent cela, il est possible qu'en fait, si on tire un peu par les poils du chameau, au final, c'était pas le mot chameau, mais c'était le mot fil. C'est des mots qui ont une racine qui est similaire. Et donc ça donnerait, il est plus facile de passer un fil dans un trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alors, pour moi, oui, passer un fil dans une aiguille, ça prend un petit peu de temps. Mais toutes les dames de la couture qui sont ici, je pense que c'est pas non plus la fin du monde et que vous le faites en quelques secondes. Donc, j'ai cherché une autre interprétation et j'en ai trouvé une qui est très sympa. C'est de dire qu'en fait, l'aiguille, ça pourrait représenter une porte. Vous savez, dans ces régions-là, on a souvent dans les murailles des portes qui sont pointues comme ça, qui ont un peu la forme d'une aiguille. Et puis, il y a dans les murailles des fois des grandes portes, mais aussi des plus petites portes. Et du coup, l'idée, c'était de dire que pour rentrer dans certaines portes, un chameau, faut imaginer, c'est déjà très grand. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur un chameau, mais c'est de base très grand. Et puis souvent, les chameaux étaient chargés encore avec tout un tas de bagages. Des fois, il y avait même une petite cabine installée sur le chameau. Et c'est l'idée de dire, en fait, à l'époque, si on voulait faire rentrer le chameau par cette petite porte, bah, fallait en fait tout décharger. Enlever tout ce qu'il y avait sur le chameau, et des fois même un peu forcer le chameau à pencher la tête et à se mettre à genoux pour passer. Alors voilà, ça c'est l'interprétation que je préfère, parce que je trouve qu'elle est vraiment parlante de ce que j'ai l'impression que Jésus essaye de dire ici. Comme je l'ai dit, il nous emmène sur un chemin avec un objectif. Cet objectif c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu, et on sait que le chemin pour y aller, il est étroit. On sait que la porte, elle est étroite. Et que finalement, pour passer, tout au long de notre vie, Dieu nous demande de nous décharger. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des chameaux, mais c'est un peu ça l'idée. C'est que si on veut passer, il faut un peu peut-être laisser quelques bagages derrière nous. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai l'impression qu'on aborde très peu dans nos églises, mais c'est vrai que entre notre vie maintenant et la vie d'après, il y aura forcément une étape. Cette étape, c'est la mort. Et en fait, voilà, on n'y peut rien. De toute façon, c'est par là qu'on devra passer. Et quand on y réfléchit un petit peu, la mort, c'est quoi? C'est le dépouillement ultime. Parce qu'en fait, peu importe ce que vous avez sur cette terre, peu importe vos richesses, vos relations, ça, le jour où on meurt, on se dépouille de tout, y compris même de ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre corps. Une manière de voir les choses, c'est de se dire quand finalement, puisqu'on sait que de toute façon, à notre mort, on va se dépouiller de tout, quand Jésus nous demande maintenant de lâcher quelque chose, finalement, il nous dit, mais de toute façon, tu vas lâcher ça un jour. Est-ce que tu voudrais pas le lâcher déjà maintenant pour déjà te mettre en chemin et déjà te mettre dans les conditions pour ce qui viendra après? Alors, comme je l'ai dit, cette histoire, elle finit un peu bizarre, et on sent quand même qu'il y a un petit flottement dans l'histoire. Jésus utilise cette expression, il dit « Ah bah oui, c'est même impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Et puis, ensuite, on voit que les disciples ils sont un peu en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe là ? Ce jeune homme, il part, ça se passe mal. » Jésus est en train de dire « En gros, c'est impossible de réussir à rentrer dans le royaume de Dieu. » Et comme souvent, il y en a un qui prend la parole et qui dit « Mais nous, on a tout sacrifié pour toi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour nous ?» Et là, on sent que Jésus, il essaie quand même un peu de les rassurer et de les remettre un peu sur une autre dynamique. et de dire, mais alors vous inquiétez pas, je sais que vous avez tout sacrifié pour moi, et dans l'au-delà, vous aurez une récompense. Et ensuite, il va même plus loin, il l'élargit, peut-être parce qu'il y avait sûrement aussi beaucoup de gens qui l'écoutaient à ce moment-là, il élargit et il dit, mais en fait, tous ceux, n'importe qui aura quitté pour moi sa maison, son frère, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants, son champ, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Alors, je vous propose de s'arrêter un petit peu quand même sur toutes ces choses que Jésus énumère et que des gens ont pu quitter pour lui. Je ne pense pas que la liste soit exhaustive. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais je ne pense pas qu'elle soit exhaustive. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus énumère, quelles sont les choses que potentiellement il pourrait finalement nous demander de quitter pour le suivre. Alors le premier, c'est la maison. Alors la maison, c'est quoi ? Ça évoque le confort. La maison, c'est la sécurité. On est bien, on a un chez-soi, on est rassuré. Mais c'est vrai que le confort, ça peut aussi être vraiment un obstacle. Ça peut être vraiment l'ennemi du chrétien, parce que quand on est confortable, ben on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de sortir de ce confort. Vous voyez, il pleut dehors, il fait pas beau, et vous dites « Ah, je dois aller faire... » Non, j'ai pas envie, je reste à la maison. Et on sait que Jésus lui-même dit « Les loups ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête. » Et c'est vraiment aussi le signe que, je pense que Jésus se gardait aussi lui-même dans une forme d'inconfort durant son ministère, pour se garder d'être dans quelque chose d'un peu plan-plan, de peut-être se dire « Ah ben j'arrête d'être itinérant partout parce que c'est fatigant, je me pose et puis peut-être les gens viennent. » Du coup, pour nous aussi, ça peut être un bon rappel de faire attention, peut-être de demander, d'oser demander à Dieu « Est-ce que dans quelque chose là, je suis trop confortable ?» Et ça m'empêche d'avancer vers toi. Ensuite, il parle des frères et sœurs, des parents. Là, on est clairement plutôt dans les relations. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que les relations, ça peut aussi être vraiment des obstacles et des choses qui nous donnent des difficultés dans notre marche avec Dieu. Si on pense aux parents, c'est vrai que on reçoit beaucoup de nos parents, mais il y a des choses bien qu'on reçoit de nos parents. Puis parfois, il y a aussi des choses lourdes dont on hérite et qui peuvent des fois être vraiment des blocages pour notre vie. Et ça peut être des choses que Dieu nous appelle à lâcher. Et puis d'une manière générale, il y a des relations dans la vie qui sont bonnes et il y a des relations qui peuvent être mauvaises. J'ai pas le temps de vous donner tout mon témoignage ce matin, mais quand j'étais ado, j'avais une petite amie, voilà, je vous dis. Et puis il se trouve que voilà, moi j'étais dans la foi, elle pas. Mais moi, j'étais en mode, de toute façon, moi, j'ai le feu, donc ça va bien se passer, et puis ça va pas influer ma vie de foi, ça fera rien. Sauf que, le temps est passé, et moi, je sentais que j'étais prêt dans ma vie à passer des étapes, j'avais envie de m'engager pour Dieu, mais en fait, je le faisais pas, parce que j'avais toujours quelque chose qui me retenait, il y avait toujours un peu quand même une friction entre cette relation-là et l'appel que Dieu me donnait. Ça a pris pas mal de temps, mais j'ai fini par vraiment me dire, mais en fait, je peux pas continuer parce que c'est en gros soit Dieu, soit cette relation. Et ce qui est magnifique, c'est que, alors c'est pas magnifique en soi, j'ai mis fin à cette relation, mais immédiatement pour moi, l'effet a été immédiat et fulgurant. Ça m'a vraiment libéré de quelque chose et j'ai vraiment après pris beaucoup d'engagement dans ma vie de foi. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est que pour cette autre personne, Dieu a aussi fait grâce et elle a pu aussi en fait faire un chemin et rencontrer Dieu, se convertir et tout ça hors de cette relation. Donc c'est aussi pour rappeler ce que j'ai dit au début, lorsque Dieu nous demande de sacrifier des choses, c'est toujours pour le mieux. C'est pas parce que Dieu est sadique et qu'il a envie de dire « Allez, sacrifie-toi, enlève ça juste pour mon plaisir ». Non. Si Dieu vous demande d'arrêter ou d'enlever quelque chose ou de changer quelque chose, c'est toujours pour le mieux, parce qu'il veut vous emmener vers quelque chose de mieux. Après, il y a les enfants. Alors, je vous rassure, je ne pense pas que ce soit un appel à abandonner les enfants, heureusement. Mais une des choses que je me disais en réfléchissant à ça, c'est quand même que la vie de famille, alors je suis bien placé pour le savoir, la vie de famille, c'est prenant. La vie de famille, ça peut prendre beaucoup de place dans la vie, et ça peut aussi, du coup, des fois, prendre tellement de place que ça empiète un peu aussi sur la vie de foi. Avoir une vie de foi quand on a des enfants et qu'il y a plein de choses diverses et variées, ça peut être un vrai challenge. Et je pense ici, c'est aussi un rappel de se dire, il faut essayer autant que possible de mettre Dieu en premier. Puis enfin, leur chant. Alors là, ici, dans cette traduction, leur chant, on peut comprendre que c'est par rapport au gagne-pain, à ce qui nous permet de gagner notre vie. Donc, je pense évidemment, par exemple, à notre vie professionnelle. Là encore, je vais pas vous faire de dessin. On vit un temps où le travail, c'est tellement important. On travaille des heures et des heures. Les carrières, c'est important. Il faut gagner de l'argent, il faut progresser. Et c'est des choses qui peuvent prendre énormément de place. Et je crois que, encore une fois, c'est à chaque fois très personnel, mais ça peut arriver que parfois aussi Dieu nous dise, mais en fait, peut-être que là, ce travail, il prend trop de place, et c'est moi que tu devrais mettre en premier. Alors j'aimerais finir sur le dernier verset, un verset tellement connu que Céline Dion en a fait une chanson. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. J'aimerais vous laisser ces versets-là aussi en guise d'espoir et d'encouragement. Je vous ai posé beaucoup de questions existentielles, et comme je l'ai dit, moi le dépouillement c'est pas non plus ma tasse de thé, j'imagine que pour vous c'est pareil. Mais l'espoir qu'il y a dans ce verset, c'est que nous sommes tous en chemin. Et on l'a dit, l'objectif final, il n'est pas dans cette vie, il est dans la suivante. Et si aujourd'hui, vous avez un peu l'impression que vous êtes un peu à la traîne, ou vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont là, qui mettent Dieu avant tout, qui sacrifient tout pour lui, et que vous vous sentez un petit peu, peut-être, un petit peu derrière, sachez que, au final, à la fin de la fin, c'est pas ça qui compte, et que peut-être ceux qui vous paraissent les premiers maintenant seront les derniers plus tard. Et peut-être que vous, si vous vous sentez aujourd'hui un peu petit, un peu à la traîne, en fait vous serez aussi les premiers dans le royaume de Dieu. Alors je vais prier pour conclure, et après on va avoir un moment musical. Et j'aimerais vraiment vous inviter à prendre ce temps musical pour prier et oser, si vous en avez le courage, faire cette prière à Dieu, de demander, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que tu veux que j'enlève? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui prend ta place? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est un boulet ou quelque chose qui me ralentit dans mon chemin? Est-ce qu'il y a un bagage que je dois enlever de mon dos pour passer cette porte? Soyez libres, mais je vous encourage vraiment à oser faire cette prière et à vous laisser aussi touché par Dieu, en sachant et en vous rappelant bien que quelle que soit la demande qu'il vous fait, c'est pour votre bien et c'est pour notre bien et c'est pour une vie d'éternité avec lui. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte, pour ta parole qui toujours nous guide, qui toujours aussi nous challenge, nous remet en cause. Seigneur, merci pour cette histoire et cette rencontre avec ce jeune homme qui nous apprend tellement de choses. Et Seigneur, nous avons un objectif, nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre avec toi, nous avons envie de passer aussi cette éternité avec toi. Mais tu vois que sur ce chemin, nous avons des fois du mal à nous débarrasser ou à même à identifier ce qui nous bloque, ce qui nous empêche. Seigneur, je te demande dans ton amour et dans ta grâce, de nous aider, de nous montrer comment faire pour te mettre en premier, comment faire pour avancer, pour courir sur ce chemin, pour courir vers toi et avec toi. Seigneur, vraiment que tu nous bénisses, que tu nous parles et que tu nous aides dans cette vie merveilleuse avec toi. Au nom de Jésus. Amen.